Rimouski. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le dimanche 9 mars, ici Caroline Bertrand. Bonne fin d'avant-midi à tous. Les États-Unis iront bel et bien de l'avant avec l'imposition dès mercredi de droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium provenant du Canada. C'est ce que le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a confirmé en entrevue à NBC aujourd'hui. Quant aux tarifs sur les produits laitiers et le bois d'œuvre, il a précisé qu'une décision sera finalement prise le 2 avril prochain. Vendredi dernier, le président américain Donald Trump avait exprimé sa volonté d'imposer rapidement des tarifs réciproques sur ces produits, accusant le Canada a arnaqué les États-Unis depuis des années. Howard Lutnick a d'ailleurs réitéré ses propos lors de cet entretien exclusif avec NBC News.
Remember, Canada is supposed to have a free trade agreement with us. 250% on dairy products. It's outrageous, and you know the president's going to respond to it, but he's agreed not to respond until April 2nd.
D'ailleurs, les propos du président américain Donald Trump et sa volonté d'imposer des droits de douane provoquent l'incertitude au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La région est particulièrement vulnérable en raison de deux de ses secteurs névralgiques, l'aluminium et le bois. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, croit qu'il est désormais temps pour les entreprises de la région de trouver de nouveaux marchés.
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est dépendante et de l'industrie provinciale et de l'industrie de l'aluminium. Donc, on ne peut pas mettre nos œufs dans deux seuls paniers avec des marchés qui bougent. Mmh. On l'a vu dans les dernières années. Donc, on s'est dit que le constat, c'est qu'une fois pour toutes, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean va devoir diversifier son économie.
Toujours du côté des États-Unis, des agents des services secrets ont ouvert le feu sur un homme armé près de la Maison-Blanche la nuit dernière. Selon un communiqué de l'agence chargée de la protection du président américain, ils avaient été avertis plus tôt là, par la police locale de la présence d'un homme qualifié de suicidaire qui se rendait à Washington depuis l'Indiana. Oui, le suspect a été identifié sur la route qui borde les terrains de la Maison-Blanche où une confrontation armée a eu lieu au cours de laquelle les services secrets ont ouvert le feu. L'homme a été hospitalisé. Son état de santé n'a pas été dévoilé pour l'instant. Soulignons que Donald Trump n'était pas à la Maison-Blanche au moment des faits. Le président se trouvait plutôt du côté de Mar-a-Lago en Floride. Les services policiers de Washington DC mènent l'enquête à ce sujet. De retour chez nous, aux journées importantes sur la scène fédérale. Aujourd'hui, bien sûr, le Parti libéral du Canada qui tournera la page sur Justin Trudeau en élisant un nouveau chef en pleine guerre tarifaire, donc avec les États-Unis. L'impopularité historique de M. Trudeau l'a poussé à annoncer au début du mois de janvier sa démission de son poste de premier ministre et de chef du Parti libéral. Justin Trudeau avait alors mentionné qu'il resterait en poste jusqu'à l'élection de son successeur. Quatre candidats s'affrontent pour son poste, soit l'ancien député Frank Bayliss, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney, l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland et l'ancienne leader parlementaire Karina Gould. Le gagnant de cette course à la chefferie devrait au courant des prochains jours prendre la tête du pays à titre de premier ou première ministre du Canada. La date de la passation du pouvoir n'est toutefois pas encore connue. La transition pourrait prendre quelques jours. On connaîtra donc le nouveau chef du Parti libéral au courant de la soirée. Et terminons du côté de l'Australie, alors que le cyclone Alfred s'est affaibli après avoir fait un mort et plusieurs blessés sur la côte est. Le cyclone, maintenant devenu une dépression tropicale, continue toutefois de causer des dommages. La région est frappée notamment par des inondations soudaines. En Nouvelle-Galles du Sud, des militaires en intervention ont d'ailleurs été blessés après que deux camions se soient renversés. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. À Montréal, on a eu droit à quelques flocons au courant de la matinée, mais c'est une alternance soleil-nuages qui nous attend cet après-midi, maximum de 2 degrés. La neige qui va cesser cet après-midi à Gatineau avec un dégagement par la suite maximum de 0. Scénario inverse du côté de Sherbrooke, averse de neige parfois forte au courant de l'après-midi, 2 à 4 cm attendus avec un maximum de moins 1. Et nuageux pour Trois-Rivières, il y a des risques d'averse de neige également et un maximum de 2 degrés.
Cogeco Nouvelles. En direct sur l'événement, à la minute où ça se produit. Le choc des idées, des entrevues qui font avancer. Et surtout, votre opinion. FM 93. Au réseau Cogeco, voici les amateurs de sport week-end. Pour ceux qui en mangent du sport.
Jérémy Rainville.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue aux amateurs de sport week-end édition de ce dimanche 9 mars. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous dominical express de sport chaque dimanche 11h à midi. Là, je vois à l'extérieur de nos studios que la neige a légèrement cessé. Si vous êtes sur la route, il y a de la neige dans votre coin. Soyez prudents et dites-vous qu'on vous aime en santé et surtout avec nous. Fait que donc, on prend le temps de ralentir un petit brin. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous aurons avec nous Stéphane Leroux qui viendra nous parler de la victoire du Rocket de Laval hier qui l'a emporté 2-1 face aux Americans de Rochester. Surtout, Joshua Roy qui a marqué avec 40 secondes à faire seulement au match pour donner la victoire aux Rockets. Deux, on balait les Americans de Rochester. Deux victoires en deux matchs. C'est plus difficile par contre pour le CF Montréal. Trois défaites dans ce début de calendrier. Vous savez comment ça fonctionne. Je pense que c'est une séquence de 7 matchs sur la route au début de la saison. Et c'est une troisième défaite de suite. Cette fois, c'est 2-0 face aux Whitecaps de Vancouver. Vandré Lefebvre sera là pour nous en parler. Parlant de victoire, eh bien, la victoire de Montréal, elle, l'équipe a gagné 3-2 en prolongation face à Boston. Isabelle Lettier sera avec nous, notre spécialiste de la Ligue professionnelle de hockey féminin viendra nous en parler. Mais défaite du Canadien 1-0 face aux Flames de Calgary. Tout ce beau monde s'est dirigé du côté de Vancouver pour le match de mardi face aux Canucks. On rejoint Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin!
Salut Jérémy!
Martin, c'est une défaite de 1-0. On a tout fait chez les Canadiens sauf marquer.
En première période, ils n'ont pas fait beaucoup, par contre. Honnêtement, seulement 4 tirs sur Dawson Wolf. Lui, ça a été une petite promenade dans le parc, la première période. À l'inverse, Dobesch battait un peu avec la rondelle en première. Il n'aurait pas dû avoir beaucoup plus de tirs, là, mais il a donné des retours assez juteux. Puis il a compliqué sa vie un peu, mais au moins, les Canadiens étaient sortis de la période sans avoir très bien joué, mais avec un compte de 0-0. Par la suite, un petit peu plus de tempo en deuxième, mais pas encore tout à fait convaincant. C'est en troisième qu'on a ouvert la machine, mais le but des Flames de Calgary était déjà au tableau. Puis dans son analyse d'avant-match, Danny avait dit « ça va se passer à bas pointage ». Les Flames, c'est une équipe très défensive. Je te dirais même, Jérémy, qu'à certains moments, c'était pas un grand spectacle hier. Là. Entre nous, là, on n'a pas eu un match très palpitant, mais à la fin de la troisième période, bonne partie de la troisième, le Canadien a essayé de mettre le pied sur l'accélérateur. Puis là, on a vu l'incroyable talent du jeune gardien de but Dawson Wolf. C'est lui qui, comme on dit, a séparé le Canadien de la rondelle. Parce qu'en troisième, le Canadien aurait dû marquer, ne serait-ce que sur l'avantage numérique au début de la période. Huberdeau a pris une très mauvaise pénalité contre Lane Hutson, mais c'est pas arrivé. On a gonflé la confiance d'un gardien de but qui est déjà très solide, peut-être en ne profitant pas de toutes les chances qu'ils ont eues. Gallagher s'est fait voler, puis là, tu sors de là sans avoir récolté un seul point. C'est un petit peu frustrant voyant que les Sénateurs avaient gagné, mais le Canadien n'est pas si loin quand même, puis n'a pas été, disons, sorti de la glace hier. Mmh.
Martin, on va revenir sur l'avantage numérique, mais juste avant, es-tu surpris de voir que c'était difficile de sortir des blocs pour le Canadien après la date limite des transactions où on dit « regarde, on fait confiance le groupe ». Est-ce que ça, c'était quelque chose de surprenant?
Je suis pas surpris, Jérémy. Je vais te dire, franchement, là, tu sais, ça a amené beaucoup d'émotions dans l'équipe, cette histoire-là. Puis là, ben évidemment, le directeur général qui est à Montréal, qui parle de sa conversation avec Suzuki, ça a amené un bon niveau d'émotion. Est-ce que ça a eu à voir avec la performance? Peut-être. Il y a une chose qu'on s'aperçoit. Patrick Laine, là, à 5 contre 5, Jérémy, c'est pas la grosse affaire. On va se dire les choses telles qu'elles le sont, là. Mm-hmm. À 5 contre 5, c'est ordinaire. Mais Martin Saint-Louis a été obligé de brasser ses cartes hier. Puis, dès qu'il y a quelque chose qui déstabilise les trios, le trio Newhook n'a pas été aussi solide. Le trio Dvorak, quand on a commencé à bouger Josh Anderson, ça n'a pas été aussi bien non plus. Moi, ce que j'ai remarqué hier, là, c'est que l'absence de Laine a fait en sorte que Martin Saint-Louis change un peu ses affaires sur deux trios, c'est pas beaucoup, là. C'est deux trios. Emil Heinemann se fait blesser au début de la partie. Il manque quelques présences. Puis là, la fluidité, la profondeur que le Canadien a quand ces quatre trios-là marchent bien, tout à coup, la machine tournait pas aussi bien. Alors, je vais pas être rabat-joie aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire, avec tout l'enthousiasme que la date limite des échanges a provoqué chez l'équipe, le ralliement derrière le groupe et tout, là, on s'aperçoit que c'est fragile chez le Canadien, ouais. L'équilibre.
OK, non, mais ça, j'achète ce que tu dis parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Au départ de Emil Heinemann, la première fois qu'il était blessé, je pense que c'était contre Seattle, là. Tu le vois qu'il y a quelque chose qui déstabilise cette équipe-là. Question. On discutait avec Dave ce matin, on se questionnait sur Patrick Laine. On dit symptômes grippaux. Oui. C'est la deuxième fois durant la saison qu'il rate des matchs en raison de symptômes grippaux. Moi, je regarde ça, puis je suis pas médecin, pas du tout. Je regarde ça, 0-2 sur l'avantage numérique. Puis semble, j'aurais donné une coupe de Sudafed, va lancer des plombs en avantage numérique. À 5 contre 5, on va te garder sur le banc?
Il filait pas, Jérémy. Il filait pas. Quand on est débarqué de l'avion hier, là, tu voyais qu'il se sentait pas très bien. Tu sais, quelqu'un qui a un mauvais virus, quelque chose, là, ça se voit là, dans le langage corporel, puis il filait pas. Là, je sais que tu sais, les gens vont dire ouais, mais il y en a d'autres qui jouent blessés et tout, là. J'étais pas dans son corps, là, puis il m'a pas parlé, là. Mais juste à le voir, on voyait que ça allait pas du tout. Même quand on est sorti de l'avion, il est venu voir le thérapeute en chef de l'équipe pour lui parler. Je pense que lui, là, il est allé se coucher avec son petit bouillon de poulet hier soir quand on est arrivé à Vancouver, puis peut-être un ou deux cachettes, quelque chose pour se remettre sur pied. Moi, je porterai pas de jugement là-dessus, ouais. Jérémy, parce que ce que j'ai vu de Laine, c'est qu'il avait pas l'air à bien se sentir du tout, mais dans son clair. Langage corporel.
Ben non, mais c'est clair, il faut faire confiance. La seule chose, c'est et qu'on aurait eu besoin peut-être un petit peu en avantage numérique, question de d'ouvrir des options. Bon, hey, oui, vas-y, Martin.
Puis on a vu que Armia, c'est pas Laine sur l'avantage numérique.
Non, clairement. Il attire pas la même attention que Patrick Laine.
Non.
Bon, là, début de ce voyage de 4 matchs sur la route, défaite en prolongation contre les Oilers, défaite contre les Flames de Calgary. Là, on a deux matchs importants, les Canucks de Vancouver et Kraken de Seattle, avant d'affronter les Panthers de la Floride à domicile. Question, je sais que ni toi ni moi ne sommes psychologues, là. Mais le moral des troupes ressemble à quoi présentement dans ce vestiaire-là?
Ça va bien. Tu sais, hier, là, ils n'étaient pas abattus trop, là, après la défaite. Je pense qu'ils étaient déçus de ne pas avoir ramassé de points, ou en tout cas, essayer de pousser Calgary en prolongation, comme ils l'avaient fait, là, un petit peu, contre les Oilers d'Edmonton deux jours avant. Mais le moral est bon. Écoute, Nick Suzuki est en feu hier, là. Il a joué 24 minutes. Il était tout le temps sur la glace. J'ai adoré Lane Hutson hier. Tu sais, quand Hutson a joué contre Celebrini, juste avant qu'on quitte pour le voyage, on a senti qu'il y avait un duel entre les deux. Puis c'est drôle, hein, hier, je regardais ça, là, puis j'ai senti qu'il y avait quasiment un duel entre lui et Wolf. Gardien de but, là, il reste dans sa case, là, il avance pas au centre de la glace pour essayer d'arrêter Lane Hutson, mais hier à Calgary, c'était un peu l'histoire, parce que j'ai jasé avec quelques collègues là-bas, puis je m'éloigne un peu de ta question, mais je voulais te le raconter. Pas ici à Vancouver, mais à Calgary hier, tout le monde disait notre gardien de but, il est bon. Quand je dis tout le monde, je parle des médias de Calgary, là, des collègues à qui j'ai jasé et tout. Notre gardien de but est très bon, on est content, on est fier, mais on sait que la meilleure recrue dans la Ligue nationale, c'est Lane Hutson.
Okay.
Pour eux, Lane Hutson va remporter le trophée Calder, parce que là-bas, Celebrini, il voit un peu plus souvent que nous. Les deux fois qu'on a vu Celebrini en personne là, jouer devant nous, là, c'était contre Hutson, puis il y avait du piment là-dedans, puis Celebrini a joué deux bons matchs. Mais un de mes collègues à Calgary, avec qui je jase souvent quand on est là, me disait « Celebrini contrôle pas la game comme Hutson peut le faire. » Puis hier, Suzuki était fort. Grosse chance de marquer pour Gallagher. 5-6 lancés pour Caulfield.